Lorsqu'elle pénétra dans le salon des Michelet, elle fut prise d'un vertige. Le souvenir de sa fille seule l'empêcha de tomber. Elle sourit sans savoir qu'elle souriait. L'entrepreneur, comme ces gens qui n'ont jamais fait de mal à personne, ni commis la moindre délicatesse de leur vie, qui n'ont jamais demandé un service, qui ne doivent rien nulle part, qui ont la conscience tranquille, attendait, fort, certain d'avoir le beau rôle. Antoinette, elle, pensait à son salon, cherchait à deviner, en regardant la visiteuse, ce que pouvait être celui de cette dernière. Édith fit quelques pas. Comme elle ne parlait pas, Jean Michelet lui dit « Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de vous recevoir à pareille heure ?» opposant « pareille heure » à « plaisir », ce dont il était très fier. Madame Auriol ne répondit pas. Il venait de lui apparaître que la demande qu'elle se proposait de faire dépassait les choses admises, que ce qu'elle osait était aussi grave qu'un vol, qu'il allait se passer une scène effrayante qu'elle ne pouvait prévoir. Il lui semblait qu'elle était prise en flagrant délit de quelque chose, que, comme dans les rêves, elle était incapable de se défendre et qu'il était trop tard pour reculer. Il fallait dire n'importe quoi, mais il fallait parler.
« Je suis confuse, toute confuse, monsieur, madame, de vous déranger ainsi, mais mon enfant est gravement malade. J'ai peur, je ne sais plus que faire. Toute seule avec ma fille, je ne vis plus. Mon Dieu, que faut-il que je fasse ?»
Venue pour demander une aide matérielle, elle n'avait pas eu le courage, en face des époux Michelet, de faire la moindre allusion à ce sujet.
« Qu'a-t-elle, votre fille ?» demanda Antoinette.
Édith mit sa main sur sa poitrine, resta un instant silencieuse, puis dit
« Elle tousse, elle est gravement malade, je ne sais pas que faire. Sauvez-la, vous, peut-être pouvez-vous quelque chose. »
« Mais nous ne sommes pas médecins, » dit Jean Michelet.
« C'est vrai, excusez-moi, je ne sais plus ce que je dis, ce que je fais. Depuis 3 mois, je vis un véritable cauchemar. »
En parlant, Édith s'énervait peu à peu. Comme un accusé, elle regardait le sol, n'osant lever les yeux. Mais sur le sol, il y avait l'image de sa fille. Elle raconta sa vie, la mort de Marc, la détresse de sa sœur, sans pourtant, par pudeur, faire la moindre allusion à sa propre détresse. Soudain, elle se redressa, leva la tête fièrement, regarda Jean Michelet dans les yeux.
« Excusez-moi, je suis pour vous une étrangère. Je ne sais pas pourquoi je suis venue vous déranger ainsi. Je vais retourner chez moi. »«
Oh, mais c'est très naturel, madame, » fit l'entrepreneur. Quoique Madame Auriol n'eût point parlé d'elle, il avait démêlé les motifs de cette visite. Aussi, en l'entendant prendre congé, avait-il ressenti un profond soulagement. « Il y a des moments dans la vie, » ajouta-t-il, « où l'on a besoin de se sentir entouré. Je comprends cela très bien. Vous êtes seul près de votre fille, c'est pour vous un réconfort de parler. Cela vous soulage. » Antoinette, qui n'avait pas, comme son mari, deviné la situation de Madame Auriol, ajouta « D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose, la nuit, vous n'avez qu'à nous appeler. Nous enverrons notre bonne. On ne sait jamais. » Édith s'était dirigée vers la porte. Lorsque celle-ci fut ouverte, à la vue de la nuit, des arbres, des étoiles, elle fut soudain prise de frayeur.
« Ma fille va mourir à cause de moi, sa mère, parce que je n'ai pas eu de courage, parce que je n'ose pas demander de l'aide. »
Elle se retourna. Jean Michelet avait déjà allumé l'ampoule de la terrasse. Antoinette s'était levée et, au milieu du salon, avait cette mine des gens qui, attendant qu'on se retourne pour les saluer, craignent de manquer ce salut.
« Écoutez-moi, monsieur, » dit Édith, les traits tendus par la volonté de ne pas faiblir. « Pouvez-vous me donner une aide immédiate? Je suis folle de vous demander cela, mais il le faut. Le grand air, la montagne seule, sauveront ma fille. Le docteur me l'a dit et je le sais. » Cet argent, monsieur, vous avez ma parole que je vous le rendrai. Je travaillerai. S'il faut passer ma vie à vous rembourser, je la passerai. Ayez pitié de moi, monsieur. »
Mais, madame, fit Antoinette.
Vous avez aussi des enfants, madame, continua Edith, qui tout à coup s'était figurée que seule Antoinette s'opposerait à la secourir.
« Imaginez une seconde qu'ils soient malades et que vous n'ayez pas les moyens de les soigner. Vous feriez ce que je fais, vous !»«
Ne parle pas, Antoinette, je t'en prie, » fit l'entrepreneur. « Laisse finir, madame. » Cette interruption glaça Edith. Elle voulut continuer, mais ne trouva plus ses mots. Comme si eux seuls eussent pu la défendre, elle eut alors l'impression qu'elle était à la merci de ce couple, qu'on allait lui demander de quel droit elle se permettait de venir ainsi chez des étrangers, qu'on allait la séparer de sa fille. Elle poussa un cri, vit Jean Michelet faire un signe à sa femme et s'évanouit. Quand elle revint à elle, elle était à demi allongée sur le sofa du salon. Antoinette n'était plus là. Jean Michelet tenait une serviette à la main et la regardait. « Allons, allons, madame, dit-il, ne vous faites pas de mauvais sang comme cela. Tout n'est pas perdu tout de même. Vous avez assez d'expérience pour savoir que les pires choses s'arrangent. Est-elle donc si malade que cela, votre fille ? Il y a quelques semaines, elle jouait encore dans le jardin. Comme toutes les mères, vous êtes trop sensible. Attendons un petit peu. Nous verrons si vraiment l'état de votre fille l'exige. « Eh bien, il faudra aviser. Mais d'abord, il faut attendre. Nous parlerons au docteur, nous verrons ce qu'il dira, nous examinerons ce que nous devons faire. Et vous verrez que tout se passera pour le mieux. » Edith s'était levée. À ce moment, entra Madame Michelet. « Cela va mieux ? » demanda-t-elle. « Je te dis de laisser, madame, » fit encore l'entrepreneur. « Pourquoi ? Je suis libre de parler à madame autant que toi. » Et se tournant vers Edith, elle l'interrogea avec douceur. Avez-vous seulement bien demandé à toutes vos relations? Vous n'êtes pas seul au monde, personne n'est seul au monde.
Je ne sais pas, balbutia Edith.
Je te dis de la laisser, continua Jean Michelet. Madame Auriol s'était dirigée tout doucement vers la porte.
Vous ne pouvez sans doute pas,
implora-t-elle alors qu'elle se trouvait déjà sur la terrasse. Jean Michelet regarda sa femme. Celle-ci baissa les yeux pour n'avoir aucune part dans la réponse que son mari allait faire.
« Je vous ai dit, madame, que nous allions voir. Attendez, ne soyez donc pas si impatiente. »
La lune s'était cachée. Edith suivit à tâtons le petit sentier qui conduisait au pavillon. C'était une étuve qui lui semblait sortir. Elle respirait à plein poumon l'air frais de la nuit.
« Demain, j'écrirai à ce monsieur une lettre d'excuse. C'est honteux et ridicule ce que j'ai fait là. Comment ai-je pu oser cela, je me le demande. Comment? Je suis folle. Ces braves gens l'ont bien deviné. Alors vraiment, que faire? Que faire ?»
Elle ouvrit la porte du pavillon. Dina, adossée à l'oreiller, était éveillée. Elle regardait fixement la lumière et ne sourcilla même pas à l'approche de sa mère.
« Alors, Dina, tu ne dors pas ?»
Elle fit non de la tête.
« Ce n'est pas sage. Je t'avais bien recommandé de dormir pour devenir une grande fille. »
Madame Auriol souriait à son enfant. Elle s'assit sur le bord du lit, lui prit les mains. Puis, brusquement, elle serra Dina contre elle et la couvrit de baisers. Lorsque sa femme fut montée se coucher, Jean Michelet se rendit à son bureau, l'arpenta durant quelques minutes, puis s'accouda à la fenêtre. À travers les feuillages déjà morts et plus opaques, on apercevait la maisonnette de Madame Auriol. Une lumière brillait à une fenêtre. Dans la nuit, elle semblait une étoile, et les gens qu'elle devait éclairer lui parurent aussi lointains que ceux qui eussent pu habiter une planète. Il revint au milieu de la pièce, puis, au bout d'un instant, retourna machinalement à la croisée. Jean Michelet réfléchissait à ce qui venait de se passer.
« Et moi, murmura-t-il, si j'étais malade, si je n'avais rien, est-ce qu'elle viendrait, elle, cette dame, me secourir? Est-ce qu'elle s'intéresserait à moi? C'est vrai que, comme dit Antoinette, je suis un homme et ce n'est pas à une femme de m'aider. » « Oui, mais si j'étais sans défense, seule, sans moyen d'existence. » « Non, elle ne viendrait pas. Elle ne viendrait pas, j'en suis certain. Si je la suppliais, elle me répondrait qu'elle ne me connaît pas.
Moi, chaque fois que j'ai rendu un service à quelqu'un, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est moqué de moi. Sans qu'il soit question de reconnaissance, on ne m'a même pas remercié. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Si je regarde en arrière, je ne trouve pas un jour de bonheur. Si j'ai une situation, c'est grâce à mon père. Sans lui, que serais-je? Qui m'aurait tendu la main? Personne, personne. Chaque fois que j'ai aimé, on s'est détourné de moi. Et on voudrait aujourd'hui que j'oublie tout cela, que je donne cet argent que j'ai gagné, malgré tout le monde. On voudrait que j'agisse comme un homme qui a été heureux toute sa vie, à qui tout a souri. Mais sait-on que même cet homme ne ferait pas ce qu'on lui demande? Et on voudrait que je sois généreux, désintéressé? Non, non, on ne l'a pas été avec moi, je ne le serai pas avec autrui. Je ne demande rien à personne. Personne n'a le droit de me demander quelque chose. Qu'on me laisse en paix. Je ne trouble pas la tranquillité des autres. Ces réflexions n'amenaient pourtant point le calme que recherchait Jean Michelet. Madame Auriol, jusqu'à ce jour, lui avait été sympathique. Il s'était souvent demandé quelle avait bien pu être sa vie. De la voir toujours seule, il en avait déduit qu'elle avait dû avoir des ennuis, des chagrins. Et cette supposition le rapprochait d'elle. Sa distinction, sa fierté, sa réserve, il l'opposait aux sans-gêne des autres voisins. Dans son esprit de petit bourgeois, il existait quelque part comme une tribu où les mœurs étaient raffinées, où régnait la délicatesse et dont il s'imaginait être un membre fourvoyé. Certainement, cette jeune femme appartenait à cette tribu mystérieuse. Mais, à présent, malgré toute la sincérité de sa détresse, toute la pudeur de Madame Auriol, il lui apparaissait qu'elle n'en faisait plus partie. D'un seul coup, elle était tombée au rang de toutes les femmes. Le fait de lui avoir demandé un secours l'enlaidissait. Du jour au lendemain, il avait perdu toute considération pour elle. Il sentait qu'il n'éprouverait, à présent, aucune gêne à refuser. La question amour-propre était éliminée. Le devoir seul restait, et peut-être aussi une sorte de sentiment qui lui dictait de sortir de lui-même, afin de mieux comprendre cependant que d'autre part, un obscur instinct lui commandait de rester sur la défensive. Trop de fois, il avait été berné pour qu'il fît quoi que ce fût spontanément. Il réfléchissait pourtant, mais avec cette impression de sécurité que l'on éprouve quand la décision prise doit vous conduire à un amoindrissement matériel pour une augmentation morale. Il avait le temps de remettre au lendemain, rien ne pressait. Il semblait que le conflit, du seul fait d'exister en lui, créait une sorte de trêve durant laquelle il était à l'abri de toutes les colères. Il continuait de posséder, mais malgré tout, le sacrifice était comme fait. Le lendemain matin, Jean Michelet ne put résister à la curiosité d'aller chez Madame Auriol. Bien qu'il n'eût pris aucune décision en ce qui concernait la demande et qu'il était loin d'y accéder, il lui apparaissait, du seul fait qu'on était venu le solliciter, qu'il n'avait plus à se gêner. « Tu ne vas pas aller chez elle ?» fit Antoinette. « Elle prendra ta visite pour une acceptation. Tu t'engages un peu trop. Après, tu ne pourras plus reculer. »« Pas du tout. Je vais pour voir. J'ai le droit, quand on me demande de l'argent, de savoir ce qu'il en est exactement. » Le ciel était couvert. Un vent frais s'était levé. Les premières feuilles mortes commençaient à tomber avec une fantaisie de fétus pris dans un tourbillon. Il se dirigea vers la petite maison. Au matin, à la lumière du jour, tout prenait une signification plus nette. Et c'était un peu parce qu'il devinait confusément que Madame Auriol allait être maintenant honteuse de son audace, qu'elle se rendait compte qu'elle n'avait pas respecté les convenances, qu'il faisait cette démarche. Sans s'en douter, il allait chercher des excuses. Elle s'excuserait certainement. « Oh, ne m'en veuillez pas, monsieur Michelet. J'étais tellement nerveuse hier soir que j'ai pris la liberté de venir chez vous. Pardonnez-moi. D'ailleurs, tout va s'arranger. Je vais écrire à des amis, à des parents. » Il attendait cela. Une femme aussi distinguée que Madame Auriol ne pouvait que tenir ce langage. Les volets du pavillon étaient ouverts. Il frappa et entra. Tout de suite, il fut surpris par l'étrangeté de l'ameublement. Il n'y avait, pour ainsi dire, que des étoffes. Sur un divan, dont les draps pendaient jusqu'à terre, Dina était allongée. Au milieu de la pièce se trouvait une petite table de bois blanc. Les seuls sièges étaient un banc de jardin et deux fauteuils d'osier. Dans un coin, une caisse recouverte d'une étoffe donnait l'illusion d'un meuble. Des pots de terre orange et bleu, quelques fleurs, une carpette, égayaient par leur couleur la pièce. Mais encadrant cet ameublement, mi-bohème, mi-artiste, un papier tenture, aussi démodé que les maillots de bain d'avant-guerre, sur lesquels étaient peintes, parallèles et verticales, des raies jaunâtres et blanches. À peine entré, l'entrepreneur s'assit et fit sur un ton bon enfant. « Qu'est-ce qui est donc arrivé hier soir, madame? Vous m'aviez l'air bien troublée. » Edith avait revêtu à la hâte une robe de chambre. « J'allais vous écrire, » répondit-elle. « Pour me dire quoi ?»« Pour m'excuser, monsieur, je me suis très mal conduite hier soir. C'est pour Dina, » ajouta-t-elle en la désignant et en oubliant sur le champ ses paroles pour regarder avec tendresse sa fille. «